Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans À Voix Nue. Cette semaine, France Culture reçoit Clément Rosset. À en croire Clément Rosset, les humains partagent tous le rêve d'un double de la réalité, un rival fantomatique du réel que les hommes s'inventent au quotidien pour survivre dans un monde qui se moque, à vrai dire, de ce qu'ils sont comme de ce qu'ils y font. De sorte que la condition humaine lui semble une tragicomédie, dont les protagonistes ne cessent de fuir ce qui est pour vénérer ce qui n'est pas. En général, c'est aux philosophes qu'on reproche de voir midi à 14h, de se prendre la tête, ou de dire en plusieurs livres ce qui tient en quelques phrases. Or, ce que vous montrez, Clément Rosset, dans des ouvrages brefs, clairs et désopilants, c'est que tout le monde voit double, qu'il est beaucoup plus facile de se compliquer la vie, et que, paradoxalement, rien n'est plus difficile à admettre que la tautologie, la lapalissade, l'évidence du vieux Parménide, selon qui ce qui est, est, ce qui existe, existe, et ce qui n'existe pas, n'existe pas.
Oui, ce n'est pas une lapalissade, hein. C'est une tautologie. Ce n'est pas du tout la même chose, comme je m'en suis expliqué dans le démon de la tautologie, justement. Mais peu importe. Ce qui est remarquable, c'est que ça a l'air effectivement d'une évidence qu'on appelle tautologique d'une autre façon. Et je considère, pour ma part, que il convient de prendre ça très au sérieux et que ce n'est pas du tout si tautologique que cela. Et qu'effectivement, l'idée qu'on ne peut pas forcer à exister ce qui n'est pas est un drame qui est le drame de l'humanité, le drame de la quotidienneté et le drame de la condition humaine qui est sans cesse sollicité à espérer ou à faire en sorte de faire exister quelque chose qui n'existe pas ou, ce qui est un peu la même chose, de faire qu'il existe quelque chose qui n'existe pas. Bref, de devoir en passer sans aucun détour ni contournement possible par ce que Parménide appelle l'être et ce que j'appelle moi la réalité.
En fait, vous êtes le philosophe qu'il ne faut pas lire en terminale, parce qu'en terminale, on apprend que la philosophie, avec Platon, c'est l'art de dissiper les apparences pour découvrir la vérité.
Voilà.
Et on fait de ça le signe d'une saine curiosité philosophique, d'une recherche de vérité qui peut-être y parvient ou n'y parvient pas. Alors, vous inversez les termes en disant que ce qui est présenté comme une saine curiosité est en fait un drame, c'est-à-dire qu'au lieu de vouloir chercher la vérité sous les apparences, les humains souffrent de ne pas pouvoir regarder les apparences comme telles.
Exactement. Et dans la mesure où les apparences sont le domaine de l'être et de la réalité. En somme, mon propos rejoint tout à fait la quête ontologique. Enfin, qu'est-ce que c'est que l'être? C'est un très vieux problème. Mais ce qu'on nous apprend en terminale consiste essentiellement dans cette version un petit peu orthodoxe, je dirais, que de la philosophie. Car la philosophie, comme les religions, ont leur orthodoxie et leur hétérodoxie et leur...
Et leur dissidence.
Leur schisme et leur dissident et leur hérésie. Mais néanmoins, effectivement, ce qu'on nous apprend au lycée, c'est toujours la doctrine orthodoxe depuis Platon, enfin depuis le commencement de la philosophie occidentale, pour laquelle le plus dur travail est de se défaire des apparences et de retrouver une réalité qui est un peu d'ordre suprasensible, d'ordre intellectuel, d'ordre idéal, Platon, Plotin et bien d'autres, et puis toute la métaphysique jusqu'à nos jours, et même jusqu'à, d'une certaine manière, Heidegger, puisqu'il se flatte d'ontologie, mais en réalité son ontologie, quoi qu'il en dise, est bien métaphysique, puisqu'elle distingue entre deux statuts de l'être, qui sont l'être réel, l'être, et l'être apparent, l'étant. Et donc, c'est une tradition qui est encore présente de manière vivace aujourd'hui. Et il est vrai que de mon côté, bien encore une fois, je ne suis pas le seul. Il y a eu tout de même certains, Nietzsche notamment, mais bien entendu. Je m'inscris dans une tradition hérétique en quelque manière, et j'estime que le travail intellectuel qui est aussi le travail qui est la peine de l'homme tout court, hein, fut-il intellectuel ou pas, est d'arriver à prendre le réel quotidien, le réel commun, pour la réalité même, et de rejeter comme hallucination les perspectives d'un réel plus réel, enrichi en réel comme l'uranium, et qui serait un réel stable, débarrassé de toutes les scories du mouvement, de l'apparence, de l'illusion, du devenir, etc.
C'est-à-dire que chez Platon, le but, c'est d'être moins attentif à ce qu'on voit avec les yeux du corps qu'à ce qu'on perçoit avec les yeux de l'âme. Donc il y a une espèce de conversion du regard.
C'est une formule qui est dite et redite dans toute l'œuvre de Platon, dans le Phédon par exemple, mais enfin partout, et qui sera reprise exactement par Descartes. L'inspection de l'esprit. Le réel, c'est ce que j'inspecte par mon esprit.
Dans les méditations métaphysiques.
Oui, dans tout Descartes.
Mais en revanche, chez vous par exemple, toute la difficulté, paradoxalement, c'est de réussir à regarder ce qu'on a sous les yeux.
Exactement, oui. Exactement. Je pense que c'est la tâche la plus difficile à laquelle l'homme soit confronté et condamné, hein, d'une certaine manière. Et que, en conséquence, le travail de déconstruction, à quelque manière philosophique, de la philosophie orthodoxe au profit du rétablissement d'une philosophie hérétique telle que je la pratique constitue un travail, comme le dit Parménide lui-même, un travail très horriblement dur, puisque je considère Parménide comme quelqu'un qui a refusé le monde de la doxa, le monde de l'apparence, et qui lorsqu'il parle de ce qui est, il parle du réel pour moi et pas du tout de ce qui est au-delà de toute réalité tangible.
Vous écrivez ceci au début du Réel et son double, qui est non pas votre premier livre, mais si j'ose dire le premier livre important ou le premier auquel vous tenez. Vous écrivez « Rien de plus fragile que la faculté humaine d'admettre la réalité. Le réel n'est admis que sous certaines conditions et seulement jusqu'à un certain point. » S'il abuse et se montre déplaisant, la tolérance est suspendue. Et s'il insiste et tient absolument à être perçu, le réel pourra toujours aller se faire voir ailleurs.
Oui, oui, c'est ce qui lui arrive, en effet, bien souvent. Hein.
Alors, on dirait le début d'X-Files, vous savez, la vérité est ailleurs. Hein. C'est toujours l'idée, comme un proverbe, un lieu commun, que la perfection n'est pas de ce monde et que la vérité est ailleurs. Vous inscrivez en faux contre ça.
Non, pour moi, la réalité, c'est une personne qu'on tolère, effectivement, jusqu'à un certain point, et c'est tout de même un peu la pauvre du logis, et si l'on embête, on la met à la porte, quitte à la ramener, la faire revenir si elle est tolérable. Alors tout ça, nous tournons autour d'une notion qu'il faut absolument dire tout de suite, sinon tout ça n'a pas de sens, c'est que si le réel est tellement dur à accepter, si... Il est dur de penser qu'on ne peut pas forcer le réel à ne pas être le réel ou le non-réel à être réel, pour reprendre avec une légère inflexion de vocabulaire les formules énigmatiques de Parménide. C'est parce que je considère, alors ceci remonte à mes tout premiers écrits en revanche, c'est que je considère que la réalité est indésirable jusqu'à un certain point, puisque à la fin des fins, je déclare qu'elle est hautement désirable. Mais elle est indésirable et tragique, et demande pour être admise, pour être vue, pour être perçue, tout simplement, un effort philosophique, un effort mental, un effort moral, pas au sens de la morale habituelle, évidemment, et demande une sorte de force... De force d'âme, c'est le mot d'ailleurs de Parménide, il te faudra une force de d'âme.
Et un cœur d'airain, je crois.
Un cœur d'airain pour accepter que ce qui est, n'est-ce pas? C'est ce que dit Parménide. Et je le répète après lui sans changer un mot. Eh bien, la raison de cette difficulté majeure est que la réalité peut nous sourire, mais que dans beaucoup de cas, elle ne nous sourit pas du tout. Et finit de toute façon par être indigeste, puisqu'elle se termine avec la mort que personne n'a jamais digérée. C'est pourquoi je ne m'étonne pas trop que face à la difficulté de percevoir la réalité, surgisse une extraordinaire virtuosité de l'homme à ne pas voir la réalité. C'est forcé. C'est tout à fait nécessaire, puisqu'il faut vivre tout de même, et qu'on ne peut pas admettre ce qui est. La profusion d'idées que j'appelais antitragiques quand j'avais 20 ans, que j'appelle maintenant la virtuosité des machines.
Duplicatrice, on pourrait dire.
Comment ?
Duplicatrice ?
Là, on va y venir, une seconde. La machinerie antiperceptive, je parle à un moment au miracle de la faculté antiperceptive. C'est quelque chose de tout à fait fabuleux. Jusqu'à un certain point, c'est extraordinaire de voir que quelqu'un qui voit bien rouge dit non, c'est bleu. C'est extraordinaire. Mais au fond, ce n'est pas tellement extraordinaire parce que c'est nécessaire. Si je vois du rouge, je meurs. Je me suicide, je ne peux pas. Donc, la manière, l'imagination, les ressources d'imagination que montre l'homme pour refuser de dire que A est A, pour reprendre une formule de Parménide, justement, de percevoir que ce qui est bleu, bref, de rendre justice au réel, cette faculté n'est pas extraordinaire, elle répond a une faiblesse humaine qui est que, et ça Lucrèce l'a beaucoup montré, qui est qu'il a un savoir en trop, comme dirait un œil en trop, comme dirait André Green, c'est-à-dire qu'il est capable de savoir tout le tragique de la vie, mais il n'est pas capable de le supporter.
C'est-à-dire que pour l'homme, il est beaucoup plus facile de faire compliqué que de faire simple.
Ben c'est plus sûr, en tout cas, c'est plus sûr,
c'est
plus prudent.
Mais dans le réel et son double, à un moment d'ailleurs, vous dites c'est un désir de sécurité qui nous agite et qui nous porte à le faire, et vous citez Macbeth, c'est Hécat qui parle à ce moment-là, et vous dites la sécurité est la grande ennemie des mortels.
Oui, oui, parce que là, c'est la fausse sécurité. Hein.
Ben, c'est la même. Hein.
Oui, mais c'est la même, oui.
Parce que, en définitive,
la sécurité est toujours fausse.
Oui, mais c'est pas là, parce qu'on croit qu'il y a une vie au-delà de la mort qu'on va pas mourir, si vous voulez.
Oui, bien entendu. Dans ce sens, vous avez tout à fait raison.
Alors, ce qui est étonnant dans vos livres, c'est l'absence totale de suspense. Cela dit, ça va avec le propos. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous posez d'emblée que ce qui est, et que nous passons nos vies à adorer ce qui n'est pas et à fuir ce qui est, vous posez en général la thèse d'emblée dans les deux, trois premières pages du livre, et puis ensuite, s'ensuit toujours une série d'exemples délicieuses. Alors, vous parlez tout à l'heure de ceux qui disent bleu quand ils voient rouge. On peut en donner quelques-uns, des exemples, c'est très amusant. Celui que je préfère, c'est celui de Boubouroche, hein. Le sympathique Boubouroche dont vous parlez dans Le réel et son double.
Oui, on pourra en citer 10 autres. L'histoire de Boubouroche, qui est une histoire de Courtelide, d'abord un conte, puis une pièce de théâtre. Cette histoire de Boubouroche est effectivement tout à fait délicieuse et explicite sur la manière de nier la réalité.
Racontez.
Alors, je la raconte, non mais tout le monde le connaît, mais Boubouroche, plus exactement, le héros qui raconte l'histoire, est logé par un certain Boubouroche dans une petite chambre au 5e étage, face à un petit appartement dans lequel Boubouroche loge sa maîtresse à laquelle il rend visite et qu'il honore les jeudis, samedis et lundis, je ne me rappelle plus. Et le héros de l'histoire observe que chaque fois que Boubouroche absente, surgit un jeune homme qui est l'amant véritable de la maîtresse, au fond, de Boubouroche, qui est Adèle. C'est là où intervient la folie de l'auteur ou la folie de Courteline. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? On ferme sa gueule, n'est-ce pas ? Mais que fait-il ? Il faut tout de même, je le dise à Boubouroche, c'est trop cruel, tout de même, c'est si bon Boubouroche, comme ça. Alors il lui dit donc, vous savez mon cher ami, il est toujours là, petit père, quand vous n'êtes pas là, comme dans Péléas et Mélisande, hein, Golo. Quoi, c'est faux, tu es fou, enfin, jamais elle ne me trompera, Adèle. Bon, viens par exemple ce soir à 9h. Alors, Boubouroche vient, tape, c'est moi, c'est ton chéri, etc. Adèle, qu'est-ce que tu viens faire là, c'est pas ton heure. Mais ouvre, enfin mon ange en sucre, bon. Alors, tout de même un petit peu inquiet, Boubouroche flaire, ça sent un peu l'homme, hein. On peut sentir l'homme comme on peut sentir la femme, il y a quelque chose, des odeurs, des traces, bon. Alors, bref, il fait sa crise, oui, mais il y a un homme chez toi, un homme chez moi, tu as perdu la tête, bon. Et finalement, Boubouroche ouvre un placard au hasard, et il y a le jeune homme dans le placard. Alors là, il se passe quelque chose de complètement extraordinaire. C'est qu'au lieu de se dire, bah bon, je suis cocu, c'était vrai ce qu'il m'a raconté, je suis cocu, eh ben non, Adèle va dire, mais je te quitte, je ne parlerai plus. Il y a une raison pour laquelle ce type paraît extraordinaire est là, mais je voudrais bien te dire, mais tu es vraiment tellement dégueulasse que le mieux de nous quitter. Oh, ma biche. Oh, mais non, mais je voulais pas te faire de peine, je voulais pas faire de mal, mais bien sûr que c'est pas du tout ce que je croyais, tu m'es fidèle. Bref, il croit à la fidélité en face même de son rival, en caleçon, n'est-ce pas? Alors là, c'est extraordinaire tout de même d'être dupe, tout en étant dupe de rien, comme je le dis dans Le réel sans double. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de... C'est un refus, plus exactement, un refus de la réalité qui ne s'appuie sur rien. Le réel est en personne, devant, peint, et ben non.
Comme vous le dites, Boubouroche est incurable, non pas d'être aveugle, c'est-à-dire d'ignorer qu'on le trompe, mais d'être voyant. Il sait qu'on le trompe, mais cette perception est sans effet sur la conscience qu'il peut en avoir.
C'est une perception inutile. De toute façon, puisqu'Adèle ne peut pas se tromper, bon, ben même en cas de prise à main dans le sac, elle ne se trompe pas. Et le misérable, c'est le dénonciateur qui prend une correction.
C'est ça.
Et juste, qui méritait d'ailleurs, je trouve, hein, parce que après, il n'avait pas à se mêler de tout ça. Et c'est vraiment un cas absolu, alors là, de refus absolu, entêté, on ne peut pas lui en montrer plus.
Est-ce qu'il n'y a pas derrière cette histoire la matrice de tous les dogmatismes? Je pense par exemple au meilleur des mondes possibles de Leibniz. Le meilleur des mondes possibles est un monde qui ne souffre aucune possibilité de contradiction. C'est-à-dire que même un drame, un cataclysme, un camp de concentration, un malheur, n'importe quoi, le pire des malheurs, ne peut pas être vu comme un argument contre l'hypothèse du meilleur des mondes possibles.
Oui, mais ça, permettez-moi de vous dire que là, vous reprenez l'argumentation de Voltaire et la manière dont Voltaire avait compris Leibniz. Mais en réalité, tous les tremblements de terre du monde, tous les désastres du monde, ne sont aucunement des objections à la conception de Leibnizienne du meilleur des mondes, puisque le meilleur des mondes implique tout un énorme quota de malheurs et de catastrophes. Simplement, Leibniz considère que par l'immensité du savoir du mathématique de Dieu, il y a une existence telle qu'il y a le maximum de bonheur pour le minimum de malheur. Et ça, c'est indémontrable.
Et c'est donc irréfutable.
Irréfutable.
C'est une façon de dire que tous les contre-arguments n'en sont pas.
Oui, bien sûr. On peut dire aussi de Freud qu'il était irréfutable. Mais c'est tout même très différent du cas de Bouburoche, parce que Bouburoche se trompe au lieu que Leibniz a tout à fait raison de dire que tous les événements qui se passent sont en accord avec sa théorie.
Oui, c'est Leibniz ne dit pas il n'y a pas eu de tremblement de terre.
Voilà, voilà.
Bouburoche dit il n'y a pas eu de tremblement de terre.
Vous avez tout compris. C'est tout de même une nuance forte importante. Et ce que je dis souvent, c'est que on peut guérir des malades, mais on peut pas guérir des bien portants. On peut pas en faire revoir à celui qui a vu. Bouburoche a vu son rival. On peut pas le ramener à la raison en lui disant il y a un amant dans le placard, il l'a vu. Alors, ça peut être pris en termes de bêtises, ça peut être pris aussi en termes d'aveuglement ou de côté incurable. D'ailleurs, je dis dans un livre, la médecine ne peut servir qu'au bien portant. Il n'y a pas de médecine pour les malades. Alors, à tous les exemples qu'on a donnés d'aveuglement comme ça, ou de désir irrépressible de nier ce qui est évident, j'ajouterai un dernier exemple que je trouve personnellement très drôle, que je cite dans les principes de sagesse et de folie, juste après le début sur Heidegger, sur
Parménide.
Un Parménide non heideggerien, justement. Et c'est le cas de Scapin et la scène célèbre.
Entre Mon Dieu, que diable allait-il faire
Que diable allait-il faire dans cette galère? Donc, Scapin a fait croire à Jérôme que son fils avait été enlevé par les Turcs et qu'on a emmené en Alger. C'était à l'époque de la guerre d'Algérie, quand ça fut donné par Robert Hirsch, qui le jouait admirablement. Et si vous lui avez tout de suite 500 ticus. Et alors, c'était une chose absolument pathétique et drôlatique à la fois, que la manière dont Scapin, tantôt fin d'accepter le fait et de tenter d'y parer par des manœuvres qui sont absolument imaginaires, qui ne peuvent servir à rien. Et on revient toujours à ce fameux refrain, mais qu'allait-il donc faire dans cette galère? C'est-à-dire, on revient toujours à l'idée qu'au fond, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas vrai. Mais ça, il n'est pas obligé de le savoir. Mais que ce n'est pas vrai. Que ce réel, après tout, il y a une heure, il était pas dans la galère, pourquoi n'y avait-il pas d'autres promenades? Bref, la contestation du fait auquel il était obligé de faire face. C'est aussi une illustration, à mon avis, pathétique et drôlatique.
C'est-à-dire ce que vous dites la parade de Géronte contre Scapin, donc Géronte qui dit tout le temps, mais enfin, que diable allait-il faire dans cette galère? La parade de Géronte contre Scapin consiste en somme moins à remédier au fait qui est sans remède qu'à contester au nom du passé la réalité du fait lui-même.
C'est ça.
Un des mythes dont vous vous servez le plus, mais dont vous faites un usage singulier, c'est le mythe d'Œdipe. Vous en faites un usage très étrange.
Il faut expliquer un peu tout cela. Effectivement, j'en fais un usage qui n'est pas du tout celui de Freud, évidemment, ni d'ailleurs celui de beaucoup d'autres interprètes. Mais pour expliquer la chose, il faut repartir d'un peu plus loin. Alors, premier point, nous avons vu, il y a une nécessité de dier le réel. D'où la faculté antiperceptive. Alors, quand il n'y a rien à faire pour nier le réel qui vous arrive dessus, il y a de la même manière que on peut toujours trouver une dernière sortie sur l'autoroute avant Paris ou avant le réel, on peut recourir à une solution fantasmatique et qui a retenu mon attention pendant une trentaine d'années, et qui est ce que j'appelle le double. Alors, ce double n'est pas du tout n'importe quel double. C'est un double très particulier qui est une hallucination d'un autre réel. Changeons de réel, puisque on peut refuser le réel, puis on peut en changer, comme on change de chemise, ou de cadillac, ou de chevaux, n'est-ce pas ? Cette représentation fantasmatique d'un autre réel, que j'appelle le double, j'en ai eu un petit peu le pressentiment, et puis après ça s'est beaucoup développé, à partir effectivement d'une histoire qui a trait à la littérature oraculaire, c'est-à-dire à Édipe Roy. Alors évidemment, je ne considère pas qu'il s'agit du destin, de la réalisation d'un destin, mais que c'est au fond c'est le réel lui-même qu'on essaye de jouer par la parade du double. Alors l'image d'une version hallucinatoire et duplicatoire du réel m'est apparue à propos en premier lieu, après ça s'est imposé à moi comme comme l'illusion fondamentale de l'homme, que ce double, que cette faculté de voir double, comme Tiadel d'ailleurs à un moment, dans Bobouroche, eh bien elle m'est apparue dans la manière dont s'accomplit le dessin d'Édipe, et qui paraît toujours étonnant. Bien sûr, son destin, son être, sa réalité, c'est d'épouser sa mère et de tuer son père. Mais la manière dont la réalité se réalise, si je puis dire, dans le cas d'Édipe, étonne et est considérée généralement comme une espèce d'entorse ou de tricherie par rapport à la manière normale dont aurait dû s'accomplir l'événement. Il y a une erreur sur les véritables parents d'Édipe, et il y a toutes sortes de coïncidences fâcheuses qui font que...
La prophétie se réalise.
On pense pouvoir s'imaginer qu'elle se réalise par tricherie, par coïncidence, et qu'elle aurait pu se réaliser de manière plus directe, plus honnête, entre guillemets. Et c'est là que j'ai traqué cette idée d'image fantasmatique et duplicatoire du réel, parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que quand on se dit, mais tout de même ça aurait pu se passer sans cette histoire invraisemblable de fausse identité et de reste, c'est vrai pour Oedipe comme c'est vrai dans toutes les histoires où l'oracle se réalise par l'effort même qu'on fait pour l'éviter, eh bien je me suis donc aperçu que cette autre version plus plausible, la manière dont le réel aurait pu se réaliser, est beaucoup plus improbable et impensable même que celle qui a été élue par la réalité, et que en tuant son père et épousant sa mère de la manière dont il le fait, par tous les contresens par lesquels il passe et les erreurs, il réalise sa réalité de la manière la plus immédiate, de la plus simple. Premier constat. Deuxième constat, que lorsqu'on croit imaginer confusément qu'il y aurait eu des manières autres pour le réel de se réaliser, qu'il ne serait pas passé par toutes ces trappes, par tous ces mensonges, par tous ces contresens. On ne pense rien. Il n'y a pas de version qui est plus plausible. C'est la version la plus simple, la plus réelle. Il n'y a pas d'autre version du réel. On croit que ça aurait pu se passer d'une autre façon. Montrer de quelle façon, on n'en pense aucune.
Et comment expliquer que Oedipe, à la fin de son parcours, moment où il se crève les yeux, précisément, faute d'avoir vu, il se crève les yeux.
C'est comment, encore une attitude de refus du réel, d'ailleurs.
Attitude de refus du réel. Comment expliquer que Oedipe soit surpris? Moi, l'histoire d'Oedipe me fait penser à cette anecdote que raconte Jean Kélévitch tout le temps, qui est que quand un homme est mort, on fait toujours à ses obsèques comme s'il n'avait pas eu de chance, comme s'il lui arrivait un truc fâcheux dont nous serions miraculeusement exemptés.
Vous avez tout à fait raison. C'est exactement le même phénomène. C'est exactement l'hallucination du double, ce que vous êtes en train de dire. C'est un phénomène tout à fait quotidien. Je pourrais vous donner aussi un autre exemple. Vous y avez fait allusion tout à l'heure. C'est Macbeth. Macbeth et Oedipe sont très proches. Macbeth voit que le destin impossible, une forêt va marcher sur une autre forêt, et puis ça se passe lui-même. Il est ahuri au point qu'il dit « Le monde est une histoire racontée par un idiot, plein de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. » Alors que ce qui s'est passé, c'est la réalité même qui s'est réalisée de la manière la plus simple, il n'y en a pas d'autre.
C'est le grand paradoxe que vous formulez quand vous dites « Le réel est un piège qui ne prend personne par surprise. »
Oui, et quand vous avez rappelé que il y avait une fausse sécurité du réel qui faisait penser que la chose ne pourra pas se produire. Quoi.
Merci Clément Rosset pour ce premier entretien. Nous avons vu aujourd'hui ce que la réalité n'était pas. Il serait trop facile de s'en tenir là. C'est pourquoi demain, dans ces Avoies Nues, nous essaierons de voir ce qu'on peut dire du réel lui-même, une fois qu'on l'a débarrassé de ses doubles qui le suivent comme son ombre. C'était À Voix Nue, une série d'entretiens avec Clément Rosset proposée par Raphaël Antonel.
À Voix Nue. Cette série d'entretiens avec le philosophe Clément Rosset, récemment disparu, a été enregistrée en 2006. Réalisation Doria Zénine, coordination Claire Poinsignon. À Voix Nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.
Lâche-moi le banane ou je te fais sauter les boulons. Ça les dégoûte.